Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web par Stéphane Croza.
Bonjour, bonjour à tous, je suis donc Stéphane Croza, je suis responsable du cours WE01 à l'UTC, donc on vient de l'entendre, écrire, communiquer et collaborer sur le web. Et donc ce semestre, eh bien, les conférences de ce cours seront données en direct depuis le studio de la radio compiénoise Graphite, donc que l'on peut écouter sur 94.9 FM dans la région, et puis sur le web, sur graphite.net. Le cours sera diffusé donc presque tous les mercredis entre 13h et 14h. Si vous souhaitez participer à d'autres activités du cours, notamment les ateliers pratiques qui permettront d'approfondir certains concepts, de découvrir des méthodes et techniques du web, eh bien vous pouvez vous inscrire au cours version upload sur librecours.net. Alors à titre d'exemple, lors des premières semaines, on apprendra à écrire en HTML, à faire du CSS, du JavaScript. Donc ça, ce sont les langages web côté navigateur. Et puis on manipulera des outils de messagerie instantanée comme Mattermost. Et même, on découvrira un petit peu les mécanismes du chiffrement à travers GPG. Alors je suis accompagné pour ce cours aujourd'hui, et je pense pour la plupart des séances, par Audrey Guélou, donc qui est à mes côtés dans le studio. Bonjour Audrey.
Bonjour Stéphane.
Alors Audrey, tu es ingénieure en informatique diplômée de l'UTC. Tu poursuis actuellement en première année de doctorat ton travail autour de la question des modalités de communication sur les médias sociaux et en particulier sur les médias décentralisés. Alors on en dira un tout petit mot aujourd'hui. Tu t'intéresses en particulier aux problématiques éthiques et techniques que cela pose. Tu nous en reparleras un petit peu tout à l'heure quand on va commencer à parler de d'étiquette. Et puis aujourd'hui, eh bien, ton rôle, c'est surtout de me poser les questions, et donc tu n'hésites pas à m'interrompre dès qu'on ne comprend plus ce que je raconte. On a également la chance et l'immense honneur d'avoir Léo à la technique, donc un des deux piliers de la station Graphite. Donc on est certain que tout va très bien se passer au niveau technique aujourd'hui. Je précise rapidement que Audrey et moi sommes membres de l'association Picassoft, donc une association compiénoise qui œuvre à la promotion des libertés sur Internet, notamment en proposant des services web libres et décentralisés. Pareil, des mots que l'on aura l'occasion de décrypter un petit peu dans le cadre de ces cours, et donc vous pouvez retrouver ces activités sur picassoft.net. Si vous souhaitez poser des questions au cours de ce cours émission, eh bien vous pouvez le faire à travers l'outil de messagerie instantanée Mattermost que j'ai déjà mentionné, donc à l'URL team.picassoft.net équipe WE1. Canal live, plus précisément, et également à travers une autre adresse, donc pad.picassoft.net/p/WE01. Si vous n'avez pas eu le temps de tout retenir, eh bien ne posez pas de questions cette semaine et allez consulter le site la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement, on va faire une sorte d'introduction générale à la notion de communication sur Internet. Donc on va aborder en théorie trois parties, en pratique probablement que les deux premières faute de temps. Mais donc on va découvrir les principes techniques, donc à travers les protocoles et outils qui permettent de communiquer via Internet. Ce sera une très courte introduction, on aura un cours beaucoup plus approfondi au cours du semestre pour entrer un peu plus dans le détail. On en aura même plusieurs en fait, et puis on parlera également dans la seconde partie de la netiquette, donc à travers quelques exemples de bonnes pratiques à adopter lorsque l'on communique en ligne. Et donc ce que l'on n'aura probablement pas l'occasion de faire, eh bien, c'est de parler de chiffrement. On ponctuera chaque cours par la présentation de quelques livres en lien avec le cours donc de WE1 en général, alors plus ou moins également avec la séance. On va essayer aujourd'hui on verra qu'il y en a un des deux qui est plus ou moins en lien, l'autre un peu moins. Et puis donc si vous souhaitez retrouver l'ensemble des ouvrages en lien avec le cours, eh bien vous pouvez trouver ça sur un autre site qui s'appelle Zotero, donc adresse zotero.org, puis recherche du groupe WE1. Alors Audrey va nous parler d'un article sur la politesse du numérique écrit par un enseignant de l'UTC qui s'appelle Bruno Bachimon, mais elle le fera un petit peu plus tard, donc au moment où on va commencer à aborder la question de la netiquette. Et donc, c'est moi qui me lance le premier. Alors, avec deux ouvrages, je vais essayer également de présenter au cours de ces séances des livres un peu plus orientés vulgarisation technique et d'autres un peu plus orientés politique, voire polémique. C'est un peu le cas de ce premier ouvrage qui s'appelle « Merci de changer de métier, l'être aux humains qui robotise le monde ». Donc c'est un livre de Célia Isoard, édité chez Agone en 2020. Alors pourquoi je vous parle de ce livre en première séance ? Eh bien en fait, un des étudiants du cours m'a demandé la semaine dernière pourquoi est-ce qu'on faisait ce cours de W1 à la radio ? Alors évidemment je m'étais un petit peu posé la question, mais peut-être que je ne me l'étais pas posé aussi franchement. Alors j'y réfléchis un peu. Les premières raisons qui étaient assez évidentes pour moi, hein, c'est que bon, ok, faire cours tout seul chez soi depuis son bureau, c'est assez triste. Alors que on a une petite expérience ici de la radio avec Audrey, avec les membres de Picassoft, et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, déjà il y avait un côté rendre l'exercice un peu plus humain. Deuxièmement, il y avait peut-être l'idée également que ce soit utile à d'autres personnes que les étudiants de l'UTC. Donc ça peut être une brique d'éducation populaire, voilà, de ce point de vue-là, on verra même un petit peu ce que ça donne. Mais en fait, il y a peut-être également un autre point auquel j'ai réfléchi. Alors, je suis pas encore en train de parler du livre, hein, mais ça va pas tarder. C'est que peut-être que cette façon de faire, c'est une façon de résister à la Zoom mania, à cette idée que le confinement nous conduit en fait, nous oblige à faire différemment mais pareil. Donc en fait, essayer de voilà, on fait plus court pour de vrai, mais on essaie quand même de le faire à travers un outil vidéo qui semble nous donner la même expérience, et donc avec toujours plus du numérique, toujours plus d'Internet. Alors l'idée évidemment ici c'est pas de résister à Internet, mais peut-être de résister à l'idée que c'est une technologie de remplacement, que plus du numérique, plus d'Internet, eh bien en fait c'est toujours pareil en mieux. Alors la technique hein, configure toujours nos moyens de penser et de vivre, on aura aussi l'occasion de revenir là-dessus dans le cadre de ce cours, mais en fait ça ne dit pas pour autant que cette reconfiguration, eh bien c'est toujours du mieux, ni d'ailleurs que c'est toujours du moins bien. Ça en fait c'est nous qui investissons un petit peu les choses de ce point de vue, et puis évidemment les discours auxquels nous sommes exposés. Alors le but de ce cours étant justement de mieux comprendre pour développer un regard critique, j'ai trouvé que l'introduire avec ce livre un peu coup de poing était pas inintéressant. Et donc peut-être faire en sorte que le regard que l'on va développer permette de répondre à Célia Isoard, l'autrice, en lui disant ben, soit effectivement t'as raison, je vais pas robotiser plus parce que, et on verra du coup à nous de se construire un argumentaire de pourquoi, ou bien ben non t'as tort et je vais apporter ma brique parce que. Alors évidemment, c'est une question difficile en général pour un citoyen, peut-être encore plus difficile pour un ingénieur. Et en fait, in fine, je suis pas sûr que le plus important soit la réponse que l'on donne, mais encore une fois, le fait de garder à l'esprit cette question, de se la poser. Je pense que de ne pas se poser la question, eh bien en soi, est un problème, et c'est une des choses que je retiens de ce livre. Alors, je vous parle un tout petit peu de ce livre, parce que là, du coup, j'ai fait une introduction sur pourquoi j'en parlais. La première partie, en fait, s'adresse aux ingénieurs qui travaillent sur le véhicule autonome, mais ça pourrait être d'autres technologies numériques. Ça pose la question de la surenchère technique et de l'intérêt qu'il y a à investir des moyens, de l'intelligence, des vies professionnelles dans ces objets sans en fait en discuter le sens. Alors quelques citations hein, rapides, mais par exemple à un moment, le débat n'a pas existé car la technologie n'est pas censée être politique, évidemment une idée que va réfuter l'autrice. Il semble tout aussi futile de critiquer le véhicule autonome puisque de toute façon c'est déjà là. Et à contrario, eh bien termine à un moment un passage en disant qu'on est obligé de se demander quel rapport ce projet-là entretient avec la situation tragique qui est maintenant la nôtre, l'emballement climatique, l'extinction des espèces ou la raréfaction de l'eau potable. Alors, je vous en dis pas beaucoup plus, ça c'est relatif au premier chapitre. Puis un dernier chapitre qui est également très intéressant, c'est une lettre de Norbert Wiener, donc qui est datée de 1949, c'est un des pères de la cybernétique moderne. dans lesquels celui-ci annonce ne plus vouloir participer à la robotisation du monde. Donc on a un des chercheurs les plus en pointe dans ce domaine, qui annonce ne plus vouloir travailler dans ce domaine, ou en tout cas participer à ce qu'il appelle la robotisation. Il prédit que dans ces usines, on va se retrouver avec des usines sans employés, une situation de chômage de masse dans l'industrie, je cite, et il affirme personnellement « je ne tiens pas à être responsable d'une telle situation ». Bien que, il précise également que sur le plan technique, il voit très bien ce qu'il faudrait préconiser. Alors pareil, une ou deux citations rapides, histoire d'illustrer un peu ce qu'on trouverait dans cet ouvrage. Mais par exemple, toute main d'œuvre, dès lors qu'elle est mise en concurrence avec un esclave, que l'esclave soit humain ou mécanique, doit accepter les conditions de travail de l'esclave. Le remplacement massif des travailleurs par la machine se substitue non pas à l'énergie des travailleurs, mais à leur jugement. Voilà pour deux éléments principaux. Donc ça, c'était le premier ouvrage, je rappelle, « Merci de changer de métier, l'être humain qui robotise le monde », par Célia Izoard. Second ouvrage que je livre en introduction, également très, très en lien avec le sujet d'aujourd'hui et avec un intervenant qui interviendra un petit peu plus tard dans le cadre de WE1, Cyberstructure, donc le titre, Cyberstructure, l'Internet, un espace politique, donc par Stéphane Bortmeyer, aux éditions CF Éditions, paru en 2018. Stéphane Bortmeyer nous parle des protocoles et applications qui structurent Internet, de la question du pair-à-pair, de l'hébergement, du logiciel libre, du chiffrement, de la sécurité, de la neutralité du net. Donc on retrouve dans cet ouvrage beaucoup des thématiques d'ailleurs que l'on abordera également dans le cadre de ce cours. Une ou deux citations également pour donner envie de le parcourir, de le lire même. Donc un des principes de base de l'Internet est qu'il n'y a pas de séparation entre le fournisseur et le client, donc tout le monde peut faire les deux. Quelque chose également sur lequel on va revenir un tout petit peu aujourd'hui. Internet ne permet pas que de lire et d'acheter, il permet d'écrire et cela crée à la fois des merveilleuses possibilités et des problèmes sérieux. Et enfin, l'auteur nous rappelle que Internet ne fait pas communiquer des machines, mais il fait bien communiquer des humains par l'intermédiaire de machines. On va faire une petite pause en écoutant un son d'introduction de Philippe Aigrin.
Au commencement était Internet, un réseau de réseaux qui était bête, pour que chacun d'entre nous puisse décider ce qu'il veut en faire. Le premier fournisseur d'accès public à Internet, The Well, a été créé entre autres par Stewart Brand, l'éditeur du Whole Earth Catalog. En parallèle, se développaient les groupes de news Usenet. Ici, c'est Tim Berners-Lee, en 1990, présentant l'accès entre les deux premiers sites web. Chacun était devenu à la fois auteur et lecteur. 8 ans plus tard, il y avait des dizaines de millions de pages personnelles, dont beaucoup existent encore. En 1998, Sean Fanning développe Napster, un réseau pair-à-pair de mutualisation de discothèques. Puis viennent les blogs, journaux personnels ou collectifs sur le web. Clay Shirky, en 2002, il a forgé l'expression « logiciels sociaux » pour désigner les sites collaboratifs et les outils qui les font fonctionner. À partir de 2005, il y a eu une gigantesque contre-révolution, la recentralisation massive de l'information. Elle s'est dotée d'une arme suprême, la commodité.
Upload, l'université populaire du libre, sur Graphite.
Alors cette petite transition, donc c'est quelques mots de Philippe Aigrin pour objectif de nous brosser un petit tableau historique. On va maintenant rentrer un petit peu donc dans la première partie, dans le détail des outils et protocoles de communication donc sur Internet. Alors peut-être déjà en général, une communication via Internet implique les ordinateurs des personnes qui communiquent. Donc ça, on les appelle les clients. Donc c'est l'ordinateur que vous avez devant vous lorsque vous naviguez sur Internet. On implique également des routeurs, ce sont des ordinateurs dont le rôle est de faire passer l'information depuis votre ordinateur via un autre lorsque vous envoyez un mail ou que vous consultez un site web. Alors on aura l'occasion de revenir en détail là-dessus avec d'autres cours, mais on peut retenir que pour qu'un message aille d'un ordinateur à un autre, eh bien, il va devoir passer par plusieurs routeurs de plus en plus proches de sa destination. La destination, en général, c'est ce que l'on appelle un serveur, c'est-à-dire un ordinateur en charge de gérer la communication en tant que telle. Bien, par exemple, sur un logiciel de mail, à l'UTC, il y a un serveur pour envoyer des mails et il s'appelle smtps.utc.fr. Donc, du coup, on voit bien le premier élément fondamental, hein, le fonctionnement général, en fait, de l'Internet, eh bien, ce sont des clients, des routeurs, des serveurs qui communiquent entre eux. Donc, pour cela, il faut qu'ils hébergent des logiciels qui respectent ce que l'on appelle des protocoles communs, c'est-à-dire des moyens de communiquer ensemble communs. Je vais revenir très rapidement sur ces définitions, mais donc, le client, on vient de le voir, c'est donc un ordinateur qui demande un service à un autre ordinateur. Donc un exemple de service, c'est « s'il te plaît, envoie ce mail à telle adresse de ma part ». Alors regardons un petit peu ce qui se passe, par exemple, lorsque l'on envoie un mail. Eh bien, si j'envoie un mail à contact@picasoft.net depuis mon mail stéphane.croza@utc.fr, mon ordinateur est le client, j'utilise le logiciel de messagerie Thunderbird, il va donc demander ce logiciel au serveur mail de l'UTC, puisque c'est là depuis, mon envoi se fait depuis le serveur mail de l'UTC, et bien il va lui demander d'envoyer le mail au serveur mail de Picasoft, ma destination, et ensuite, et bien quand quelqu'un de chez Picasoft consultera les mails de l'association, il demandera à son tour à son serveur quels sont les nouveaux mails, et son serveur lui communiquera. Donc voilà, hein, pour faire les choses de façon un petit peu rapide, on aura l'occasion de recreuser cela dans plusieurs cours, mais voilà le principe général. Un autre exemple de fonctionnement, et bien par exemple, si je demande la page wikipedia.fr/internet, dans ce cas-là, mon client, hein, le client que j'utilise, et bien c'est le navigateur web Firefox. Alors un serveur, c'est un ordinateur dont le rôle est lui de proposer des services. Et bien par exemple, le serveur de Wikipédia, et bien il stocke des pages HTML que l'on obtient lorsqu'on les demande à ce serveur. Ou on vient de le voir également, un serveur peut avoir comme rôle d'acheminer des mails. Alors les serveurs, ce sont souvent des ordinateurs qui n'ont pas d'écran, pas de clavier, qui sont situés dans des data centers. J'ai déjà parlé de l'association Picasoft. Et bien par exemple, Picasoft dispose de 2 serveurs dans un data center de Toulouse, qui est géré par l'association Theta Neutral. En fait, à ma connaissance, aucun membre de Picasoft n'a jamais rencontré physiquement une de ces machines. Mais on peut aussi installer un serveur chez soi. Par exemple, eh bien, si vous allez sur https://pi.crzt.fr, vous accéderez à un serveur web qui est hébergé dans mon bureau sur un Raspberry Pi chez moi, à mon domicile. Pour qu'Internet fonctionne, donc il y a des clients, des serveurs, et il faut également des routeurs. Donc les routeurs sont des ordinateurs dont le rôle est d'acheminer les paquets d'informations depuis un point A à un point B. On peut le voir un peu comme un coursier, hein, il prend l'information depuis un client et puis il communique au serveur, prend l'information du serveur, il le ramène sur le client, ou alors il permet à plusieurs clients de communiquer entre eux, etc., etc. Enfin, le dernier point de définition important, eh bien, c'est la notion de protocole. Alors, on appelle protocole un langage standard que tous les ordinateurs qui veulent communiquer entre eux, eh bien, doivent respecter. J'en ai mentionné déjà quelques-uns, comme HTTP pour communiquer sur le web ou SMTP pour envoyer des messages, des mails.
Alors, si j'ai bien suivi, Stéphane, quand je vais sur librecours.net avec mon ordinateur est le client, il demande à l'ordinateur qui stocke les pages web de librecours de les lui envoyer. Les pages web sont acheminées par paquets d'informations sur Internet en passant par des routeurs, et tout ce processus est possible parce que tous les ordinateurs utilisent des protocoles communs. Mais alors, si ce que je viens de décrire est une communication sur Internet, pourquoi est-ce qu'on parle de pages web et pas de pages Internet ?
Alors, merci Audrey de cette question. En fait, l'idée, c'est que dans ce que je viens de vous présenter, eh bien, il y a certains aspects qui sont du domaine du web, et il y en a d'autres qui ne sont pas du domaine du web, mais l'ensemble est du domaine de l'Internet. Je reformule. En fait, Internet comprend l'ensemble des applications que je viens de citer, la consultation de pages web, le fait de s'envoyer des mails, le téléchargement de fichiers FTP. On pourrait encore avoir d'autres choses qui sont un peu moins connues du public, mais qui sont bien connues des informaticiens, comme le le protocole SSH qui permet d'accéder à des ordinateurs à distance, donc FTP, SSH, SMTP pour le mail que j'ai cité, et HTTP pour le web. Tout ça, en fait, ce sont des morceaux d'Internet, en quelque sorte. Internet est composé de l'ensemble de ces applications-là. Même s'il est vrai que, au niveau de nos usages quotidiens, eh bien, on a tendance à plus utiliser les outils du web, et donc, par métonymie, on a parfois tendance à confondre l'un avec l'autre. Mais si vous êtes un utilisateur de Thunderbird, vous faites bien du mail sur Internet et vous ne faites pas du tout du web. En revanche, et c'est là où les frontières sont un petit peu floues, hein, si vous faites du webmail, eh bien, dans ce cas-là, vous faites du mail, mais au-dessus du web. Et donc, en fait, vous mélangez un peu ces différents protocoles. Vous allez à la fois faire du HTTP, du IMAP, du SMTP, et donc utiliser plusieurs protocoles d'Internet, dont certains sont du web, le HTTP, et d'autres ne le sont pas, par exemple SMTP pour le mail. Si vous communiquez via la messagerie de Twitter, par exemple, eh bien là, vous faites plus que du web, bien que vous soyez en train de faire de la messagerie. Donc on voit que les choses ne sont pas aussi tranchées que cela, mais on peut retenir en tout cas que l'Internet, eh bien, ne se limite pas au web. Alors, on peut peut-être enchaîner rapidement sur quelques points historiques liés aux différentes technologies, justement, de l'Internet. La première technologie qui est née, en fait, c'est le mail. Donc, le mail, on peut le faire remonter à 1971, donc longtemps, en fait, avant la création du web. Avant même la création de ce qu'on a appelé Internet, hein, à travers son ancêtre qui s'appelait ARPANET. Et donc, le mail naît en 1971. Alors, j'ai déjà cité un petit peu, je continue avec quelques noms barbares, mais les protocoles utilisés, eh bien, c'est SMTP pour l'envoi de mail, et IMAP pour la consultation des mails. Et puis également, il y a un protocole qui est moins utilisé maintenant, mais qui s'appelle POP, qui était une sorte de concurrent IMAP, hein, qui faisait à peu près la même chose, avec des petits détails techniques que j'aborderai pas ici. Alors pareil, je vais pas rentrer trop dans les dimensions techniques, mais c'est intéressant de savoir que chacun de ces protocoles, SMTP, POP, IMAP, sont standardisés par des RFC. Alors les RFC, en anglais, ça veut dire Request for Comment, requête pour des commentaires, enfin de demande de commentaires. Donc par exemple, pour SMTP, c'est la RFC 8211, pour POP, la 937, pour IMAP, la 3561. Ce qui est important, c'est que tous ces documents sont publics, ils peuvent être consultés en ligne, et en fait, on va trouver eh bien, la façon dont ces protocoles fonctionnent. Ce sont donc des protocoles ouverts que n'importe qui peut implémenter. Donc voilà pour le mail. Alors quelque chose d'un peu qui est tombé un petit peu en désuétude, mais une des secondes applications en fait de l'internet était les forums, donc dont on peut faire remonter la naissance en 1979 avec le réseau Usenet, donc qui permettait de consulter eh bien des échanges entre différents utilisateurs. Alors Usenet existe encore, il est encore utilisé, mais pour des usages qui peuvent diverger très légèrement aujourd'hui. Bien sûr, les forums ont continué. Hein, il y en a un certain nombre d'applications web. Je mentionne un outil web libre et décentralisé. J'introduis un peu cette terminologie sur laquelle on reviendra, donc qui s'appelle Discourse et qui permet d'implémenter eh bien, des applications de forum. Mais vous le savez, aujourd'hui, les échanges sur Internet se passent essentiellement à travers les médias sociaux. Autre application de l'Internet intéressante, hein, qui permet de communiquer en ligne, eh bien, les messageries instantanées. Alors, on pourrait faire remonter leur naissance, en fait, aux années 70 avec la commande Unix Talk. Une commande que, alors, je remonte aussi aux années 70. Et donc, c'est une commande que j'ai utilisée, un des premiers moyens de communication à distance, en fait, que j'ai utilisé pour communiquer avec ma compagne pendant qu'on était étudiant. Eh bien, voilà, j'étais en Espagne, elle était en France, et c'est les premiers outils qu'on a utilisés. Ça a vraiment fonctionné, même si aujourd'hui, on utilise un peu moins ce genre de choses. Ensuite, donc, il y a un protocole qui est né en 1988 qui s'appelle IRC, qui est un protocole de messagerie instantanée qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise plus effectivement des applications web de messagerie instantanée. Alors, je vais en citer trois qui vont nous permettre de continuer à introduire des termes un peu étranges sur lesquels on reviendra un petit peu après. Donc, il y a l'outil Slack qui permet donc de faire de la messagerie, de la discussion instantanée, qui est un outil centralisé et propriétaire. Il y a Mattermost qui est un outil décentralisé et libre. Et il y a Element sur Matrix qui est décentralisé, libre, fédéré Et en plus, il est chiffré de bout en bout. Alors, des termes un peu obscurs sur lesquels je reviendrai un tout petit peu plus tard. Et enfin, bien sûr, alors j'ai mis du temps à en parler, mais c'était un petit peu volontaire parce que c'est plutôt un des derniers nés, même si aujourd'hui c'est un des plus prégnants. Eh bien, une des applications d'Internet, c'est évidemment le web, dont on peut faire remonter la naissance en 1990, qui s'appuie donc sur le protocole HTTP, qui est un protocole qui a été élaboré alors par un organisme de standardisation qui s'appelle le W3C et à travers également une RFC, la 1945. J'ai parlé un peu des protocoles, je reviens très rapidement là-dessus, mais c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas de chef d'Internet, il n'y a pas une personne ou un organisme qui décide la façon dont fonctionne Internet. C'est une structure décentralisée, il n'y a pas donc un seul centre, hein, et donc il y a les protocoles, les moyens de communication, et bien c'est souvent le résultat de discussions ouvertes, alors en théorie à toutes et tous, en pratique souvent à quelques spécialistes. Mais il y a donc plusieurs organismes de normalisation. Alors j'ai cité les RFC qui sont donc standardisés par l'IETF, et on a également le W3C qui standardise une grande partie des langages du web comme HTML ou CSS par exemple. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que il y a plusieurs organismes et plusieurs organisations qui s'occupent de s'accorder pour décider la façon dont fonctionnent les différents langages et les différents morceaux d'Internet, en quelque sorte. Si vous êtes intéressé par ces questions de standardisation, eh bien, je vous invite à aller consulter, par exemple, le blog de Stéphane Bortmeyer, donc bortmeyer.org, un petit peu dur à épeler à la radio, mais vous retrouverez cette information facilement, et vous y trouverez là des informations sur les différentes RFC. Alors, pour enchaîner, peut-être conclure cette première partie. Là, je vous ai parlé des différents protocoles, et évidemment, mais ça, je pense que la majorité d'entre nous sommes plus familiers avec cela, eh bien, il y a également des logiciels qui font fonctionner Internet. Alors, il ne faut pas les confondre, les protocoles, ce sont des langages standards, mais évidemment, plusieurs logiciels peuvent parler, en quelque sorte, le même langage et communiquer entre eux. C'est le cas des navigateurs web, donc les plus connus aujourd'hui sont par exemple, le plus répandu aujourd'hui c'est Google Chrome, celui que les gens qui travaillent dans le domaine du libre vont préférer, c'est Mozilla Firefox. Ce sont deux outils qui font à peu près la même chose, ce sont des clients HTTP, donc ils savent demander avec le langage HTTP à un serveur de leur communiquer de l'information, et puis ils savent évidemment afficher du contenu HTML. Il y a également des clients mail, comme par exemple Mozilla Thunderbird, qui est donc un client qui permet de consulter à travers les protocoles, les langages IMAP ou POP, le contenu de serveurs mail. Alors, je viens de vous parler de langage côté client, il y en a probablement d'ailleurs certains que vous connaissiez déjà. Côté serveur, eh bien, il y a également des logiciels qui sont capables en quelque sorte de leur répondre. Alors, comme serveur web, il existe par exemple Apache ou Nginx. Ce sont deux logiciels qui font à peu près la même chose. Ils reçoivent l'ordre de donner une page HTML et puis, eh bien, ils répondent à cet ordre. Enfin, quand je dis un ordre, c'est plutôt une demande. Parfois, ils n'y répondent pas pour diverses raisons. Dans ce cas-là, vous avez peut-être vu des fois s'afficher un code d'erreur comme 404, qui veut dire « je ne répondrai pas à ta requête parce que je n'ai pas trouvé le document » ou 403 « je ne répondrai pas à ta requête parce que, eh bien, tu n'as pas le droit de consulter ce document ». Et puis bien sûr, j'ai cité là des serveurs web, mais comme on a parlé de mail, eh bien, il y a également des serveurs mail, comme par exemple Postfix qui est un serveur SMTP ou Dovecote qui est un serveur IMAP. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de tous ces logiciels. En revanche, je vais revenir un petit peu sur la typologie que j'ai introduite tout à l'heure. Je vous ai parlé de différents termes. J'ai parlé de propriétaire, de libre, de centralisé, décentralisé. Alors, je vais revenir très rapidement là-dessus, même si on aura des cours qui approfondiront cela un petit peu plus. Mais on peut citer une première catégorie de logiciels. Ce sont les logiciels donc, que l'on trouve, hein, de services que l'on trouve sur Internet, en général sur le web en particulier. Donc un premier exemple, ce sont les logiciels propriétaires et centralisés. Donc c'est le cas par exemple de Zoom. Eh bien, lorsque l'on utilise Zoom, on utilise les serveurs de la société Zoom, dont le code des logiciels appartient à la société Zoom et ne peut être utilisé par personne d'autre. Vous avez des technologies technologies qui sont également centralisées mais qui sont libres. C'est le cas par exemple de Signal. Donc Signal, c'est une messagerie chiffrée qui est donc centralisé, on utilise les serveurs de Signal, mais dont le code est libre, ce qui permet notamment de s'assurer, de prendre un certain nombre d'assurances au niveau technique. Il existe également des services libres et décentralisés, comme par exemple le service Mattermost, qui est donc un outil de chat, de discussion instantanée écrite entre divers utilisateurs. Donc là, le code est libre, n'importe qui peut installer un serveur Mattermost, c'est ce qu'a fait par exemple l'association Picasoft. Et puis enfin, il y a des technologies qui sont à la fois libres, décentralisées et fédérées. Alors en fait, c'est le cas du mail. C'est assez intéressant de voir qu'à l'origine même d'Internet, en fait, on retrouve cette logique-là. Il existe des technologies de mail libres. N'importe qui peut installer un serveur mail. Et la notion de fédération veut dire que bien, et même si je suis sur le serveur de l'UTC, je peux envoyer un mail sur quelqu'un qui est sur un autre serveur mail. Même s'il est chez Gmail, j'arriverai à lui envoyer un mail. Donc on a à la fois une technologie décentralisée et fédérée. C'est aussi le cas d'une technologie comme Matrix. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à un moment, mais qui est un peu l'équivalent de Mastodon, mais donc avec une logique de fédération, qui est un peu l'équivalent, pardon, de Mattermost dont j'ai parlé, mais avec une logique de fédération, ou, je viens de le mentionner, de Mastodon, qui est une sorte de Twitter, mais de la même façon, décentralisé, donc chacun peut installer une instance de Mastodon. C'est le cas, par exemple, de l'association Framasoft, qui a installé une instance qui s'appelle Framapiaf. Je vous propose de faire une toute petite pause et donc d'écouter un petit son là issu du Datagueule numéro 23 qui nous parle d'un thème que j'ai pas abordé, mais on ne peut pas tout aborder, et donc qui est de la neutralité du net.
Posséder une route n'autorise pas à choisir les voitures qu'il emprunte. Bonjour. Sur Internet, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Les paquets, ce sont les petites valises qui transportent les informations circulant sur le réseau des réseaux. Tel qu'il a été créé, le net n'est qu'un tuyau qui transporte tous ces paquets de façon neutre, quel que soit leur contenu. C'est ce que l'on appelle la neutralité du net. Cela n'a rien de novateur. Après la Seconde Guerre mondiale, en France, le Conseil national de la Résistance proclamait déjà la neutralité de la correspondance et l'appliquait à la poste. Le rôle du facteur est de transmettre la lettre de Jean à Stéphane, peu importe son contenu. Mais Internet grandissant, les entreprises chargées de gérer les tuyaux, les fournisseurs d'accès, ont pris de l'importance. Or, les plus gros opérateurs, comme les Américains Time Warner ou Comcast, produisent aussi des contenus pour remplir ces mêmes tuyaux. Du coup, quand ils voient passer gratuitement sur le net des choses similaires à ce qu'ils vendent dans leurs offres câblées, la tentation est grande de fermer le robinet. En 2008, aux États-Unis, Comcast a été condamné par la FCC, la Commission fédérale des communications. Le géant américain avait tranquillement choisi de modifier les paquets provenant de BitTorrent, un réseau d'échange de fichiers en peer-to-peer. Ces paquets, une fois transformés, faisaient sauter la connexion de l'utilisateur et empêchaient le transfert. En 2013, en France, l'opérateur Free a supprimé par défaut chez ses abonnés toutes les publicités sur YouTube. De quoi faire pression sur le géant Google. Deux exemples où non seulement le facteur ouvre l'enveloppe, mais en plus, il réécrit la lettre selon ses besoins. Dernièrement, la surcharge du réseau est devenue le nouveau chiffon rouge agité par les géants des télécoms. Certains fournisseurs de contenu boucheraient les tuyaux. Selon une étude, Netflix, par exemple, utiliserait 34% de la bande passante aux États-Unis aux heures de pointe. Étude menée par l'entreprise canadienne Sandvine, dont le business est justement de vendre des outils de régulation du réseau. C'est d'ailleurs les services de Sandvine qui bridaient BitTorrent dans les tuyaux de Comcast. Un détail. Mais heureusement, les fournisseurs d'accès ont la solution miracle. Faire payer les services les plus gourmands, comme Netflix. Ceux qui pourront signer le chèque deviendront alors prioritaires dans les tuyaux. Comme si on ouvrait une voie VIP sur toutes les autoroutes, uniquement réservées à quelques grosses berlines. Pendant que les autres restent coincés dans les bouchons. La bataille en cours est bien celle des contenus et de leur business. L'accord TISA, en négociation depuis 2012 au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le confirme. Il doit encadrer le commerce des services entre 50 pays du globe, 70% du marché mondial. Et l'un de ses paragraphes pourrait bien tordre la neutralité du net. Celui qui soumet l'accès aux services et applications à une gestion raisonnable du réseau. Juste ce qu'il faut de flou pour permettre un Internet à deux vitesses. Et pendant que les grosses berlines rouleront sur leur voie privée, tous les autres contenus resteront dans les bouchons. les posts de blog, les vidéos anodines, les services encore inconnus, tout ce que chaque citoyen pourrait avoir envie de publier ou créer librement. En visant la neutralité du net, les fournisseurs d'accès s'attaquent à la liberté d'expression en ligne et glissent vers un modèle qui a fait ses preuves, la télévision, où quelques-uns décident de ce que la masse doit voir.
Upload UTC, Stéphane Croza.
Alors, on poursuit donc cette présentation des moyens de communiquer en ligne, donc sur Internet. Alors, on va voir si vous avez suivi un petit peu, et puis aussi si les étudiants de l'UTC qui sont censés suivre ce cours le suivent ou pas. Quand même, faut reprendre un peu le rôle du prof à un moment. Et donc, je pose une question à laquelle vous pouvez répondre donc à travers les moyens mentionnés sur Twitter, sur Mastodon ou à travers le pad ou à travers l'équipe Mattermost de Picassoft. Donc il y a quatre possibilités. La question porte sur la notion de serveur web. Alors, est-ce qu'un serveur web, selon vous, est un ordinateur qui héberge des sites web ? Et où est-ce qu'un serveur web est un logiciel qui respecte le protocole HTTP et qui est capable de servir des pages web quand un navigateur les lui demande ? Voilà, donc première réponse, un serveur web est un ordinateur qui héberge des sites web. Et deuxième réponse, serveur web est un logiciel qui respecte le protocole HTTP et est capable de servir des pages web. On va enchaîner sur la seconde partie de ce cours, donc les bonnes pratiques de communication en ligne. Mais donc avant, je vais rendre la parole à Audrey pour qu'elle nous parle de l'article bien dont elle a souhaité nous parler aujourd'hui.
Et oui, alors je voudrais vous parler d'un article qui s'appelle « La politesse du numérique entre normes et des ajustements ». C'est un article de Bruno Bachimon. Alors c'est un article qui a été publié dans la revue internationale de sémiotique et de théorie de l'image qui s'appelle « Carte sémiotique » en décembre 2018. Alors vous allez voir le lien avec le cours et la suite du cours, mais donc pour un petit peu de contexte, donc, Bruno Bachimon, c'est un enseignant-chercheur à l'UTC qui mène ses activités de recherche au laboratoire COSTEC en philosophie de la technique et du numérique. Et donc récemment, dans cet article, il a proposé le concept de politesse du numérique. Alors, bon, n'imaginez pas un article ennuyeux sur les us et coutumes traditionnels que nous devrions respecter en ligne, a fortiori. Non, rien de cela, car loin de constituer donc un espèce de cadre rigide de règles à appliquer, la politesse de Bruno Bachimon, c'est plutôt le fait de s'ajuster aux normes de l'autre. C'est le fait de lui ménager une place dans notre propre système de normes. C'est le fait de faire cela sans avoir à recréer de nouvelles normes, à recréer de nouvelles chartes, à recréer de nouvelles règles. La politesse, dans l'idée de Bruno Bachimon, c'est une improvisation qui rend possible la cohabitation de différents systèmes de normes. C'est ce qui rend possible l'hospitalité vis-à-vis d'un autre, dont je ne cherche pas à discuter les règles et les normes. Alors vous allez me dire, ok, mais et le numérique dans tout ça, quel est le rapport ? Eh bien, dans la suite de son article, donc, que je vous invite vivement à lire pour en voir toute la richesse, malgré la simplification que je vous en fais maintenant, dans la suite de son article, Bruno Bachimon explique que le numérique, eh bien, en tant que dispositif technique, le numérique possède son propre système normatif et il ouvre de nouveaux possibles qui échappent aux normes sociales déjà en place. Et donc, à partir de là, il nous montre que une politesse du numérique est nécessaire pour faire cohabiter ce système, le système de normes du numérique, avec le nôtre et avec d'autres systèmes techniques et d'autres systèmes sociaux. Donc voilà, par exemple, un exemple concret de politesse du numérique, ça va être la politesse d'un robot qui va pouvoir aspirer des données d'un site sans pour autant le faire tomber, parce que eh bien, ça ne se fait pas. Ou bien ça peut encore être ce que l'on appelle l'anétiquette. Alors l'anétiquette, Stéphane, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'anétiquette, c'est un concept qui m'a paru intéressant de centrer cette deuxième partie du cours sur les bonnes pratiques autour de ce concept. J'ai pas encore répondu à ta question. Eh bien parce qu'en fait, il date de 1995, donc il remonte en fait assez loin dans l'histoire du numérique, puisque enfin voilà, dans, par rapport à l'histoire récente, eh bien, on peut trouver que cette durée est assez longue. Mais donc, je réponds à ta question. La netiquette, c'est en fait une charte souple qui définit des règles de conduite et de politesse qui sont recommandées sur Internet. Et encore une fois, je trouve ça intéressant d'aller relire eh bien, ces règles qui datent de 1995, qui sont spécifiées également dans une RFC, donc au même titre que les protocoles. On trouve également dans les RFC des contenus moins formels. Donc ici, c'est la RFC 1855, rédigée par Sally Umbridge. Et donc, il définit eh bien, les principes de la netiquette. Alors, le document commence ainsi. Je vais faire la traduction simultanée. Vous excuserez parfois mon français un peu bizarre. Mais ici, le début donc, de la RFC 1855 sur les guides de la netiquette nous dit que ce document nous donne un minimum de guides pour justement suivre une netiquette sur le réseau. Et donc, en suggérant que les organisations et les personnes, eh bien, devraient s'y adapter et les utiliser. Alors, j'ai choisi quelques morceaux, on va aller les explorer un petit peu ensemble, et vous allez voir que, eh bien, malgré ces 25 ans passés, eh bien, je trouve les choses particulièrement d'actualité. Alors, peut-être un des premiers points sur lesquels il me paraît extrêmement intéressant d'insister, c'est la notion de confidentialité. J'ai l'habitude de dire que le numérique, eh bien, c'est public a priori, c'est-à-dire que, en général, si on fait quelque chose de dans le monde numérique, on a plus de chances que ce soit amené à être publié, que ce soit amené à ne pas être publié. Donc en gros, il faut faire des efforts pour que les choses ne soient pas rendues publiques. D'où la peut-être troisième partie sur le chiffrement. Mais sinon, effectivement, c'est au moins une condition. On verra qu'elle est nécessaire, mais absolument non suffisante. Mais donc, on peut retenir que, peut-être à la différence d'autres médias où il est relativement difficile eh bien, de rendre publique l'information sur le numérique, c'est quelque chose d'assez usuel. Alors, par exemple, on trouve directement dans cette RFC sur la netiquette que, à moins d'utiliser un système de chiffrement, donc qu'il soit logiciel ou matériel, eh bien, vous devez partir du principe que, alors là, ça parle spécifiquement du mail, eh bien que le mail sur Internet n'est pas sécurisé. De fait, le mail n'est toujours pas systématiquement chiffré, il est extrêmement rarement chiffré de bout en bout. Je reviendrai peut-être un petit peu sur cette idée de chiffrement en général versus chiffrement de bout en bout. Mais c'est une différence importante. Et donc, voilà, il est plutôt préférable de considérer en général que les communications numériques ne sont pas confidentielles.
Alors Stéphane, tu veux dire que quand j'envoie un mail non chiffré, je dois vraiment le considérer comme public ? Alors pourquoi ? Enfin, qui peut le lire ?
Alors, en fait, s'il n'y a aucun processus de chiffrement, c'est vrai pour le mail, c'est vrai pour la consultation d'une page web, mais je préciserai après que pour le web, c'est devenu quand même plus rare. Bref, pour répondre à ta question, si tu m'envoies un mail et qu'il n'y a aucun processus de chiffrement, eh bien, en fait, on a vu tout à l'heure que ce mail était acheminé sur Internet à travers un certain nombre de routeurs. Donc, en fait, n'importe qui au niveau de ces routeurs, n'importe qui au niveau des serveurs, alors si tu m'envoies un mail depuis l'UTC, eh bien, les administrateurs du serveur à l'UTC, si tu envoies un mail à quelqu'un qui a un mail Gmail, les administrateurs au niveau du Gmail. Donc bref, l'ensemble de ces intermédiaires sont en capacité de regarder le contenu du mail. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a des armées de gens à l'UTC ou chez Google qui espionnent les mails des gens, mais c'est évidemment techniquement possible. Et on a vu depuis notamment les révélations d'Edward Snowden que c'était en fait systématiquement fait dans un certain nombre de contextes. Alors à ma connaissance, pas à l'UTC, mais on sait que c'est fait sur les serveurs d'un certain nombre de géants du web. Donc voilà pour cette idée générale hein, autour de la confidentialité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, hein, si vous communiquez avec quelqu'un des informations confidentielles par mail, eh bien, je vous invite à ce que les informations ne soient néanmoins pas trop délicates, puisque même si vous mettez ceci est confidentiel, etc., eh bien, on voit bien que de fait, cette information peut être lue par d'autres intermédiaires. Donc c'est un premier point, la gestion de la confidentialité. Second point, la gestion du temps. Alors la gestion en particulier de son temps. Peut-être un premier principe que l'on peut poser, c'est que il est tout simplement plus possible aujourd'hui pour un être humain d'intégrer l'ensemble des messages avec lesquels il est potentiellement en contact, ne serait-ce que dans une journée, via Internet. Aujourd'hui, c'est devenu totalement impossible. Peut-être que quand j'avais 20 ans, c'était encore vaguement possible, le nombre de mails, de messages, etc. étant beaucoup plus réduit. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable de considérer que ça n'est possible pour personne. Alors, vous trouverez, si ça vous intéresse, d'aller creuser un petit peu ça, un certain nombre de méthodologies ou de principes généraux. Je peux citer la méthode dite 4D avec « do », Delete, Delegate, Defer. L'idée est de dire, bien, si les messages sont très très courts, vous recevez un message très court, traitez-le immédiatement. Hein, on peut considérer que ça peut être moins d'une minute, par exemple, ou moins de deux minutes. Eh bien, il est plus économe de traiter immédiatement la réponse. Delete, si c'est court et que vous n'avez pas répondu immédiatement, jetez le message. Si le message est de seconde importance, jetez le message. Si vous ne savez pas comment répondre, jetez le message. L'idée générale est que, plutôt que de vous encombrer vous-même avec beaucoup beaucoup de choses à faire que vous ne ferez jamais, eh bien vous pouvez partir du principe que votre interlocuteur éventuellement vous relancera, reviendra vers vous et vous pourrez réévaluer les choses à ce moment-là. Bien sûr, si vous en avez la possibilité, ne pas hésiter à déléguer, c'est-à-dire à renvoyer à d'autres personnes l'information. Évidemment, dans le cas général, dans un certain nombre de cas, on va avoir une logique de defer, donc de reporter dans le temps la réponse. Alors, quelques éléments par rapport à ça. Donc, on va partir du principe, évidemment, qu'on n'est pas dans les cas précédents. Donc, on a un message important auquel on ne souhaite pas donner de réponse immédiatement. Il est bon de donner signe de vie. Alors, vous n'avez pas obligation, évidemment, de faire ça dans l'heure ou voire même dans la journée, mais le mail étant un moyen asynchrone. Mais par contre, confirmer la bonne réception du message et annoncer une réponse ultérieure est globalement une bonne idée. Et puis, gérer une to-do list, une liste de tous les mails auxquels vous avez à répondre. Alors ça peut être l'IHM, l'interface du client mail qui vous aide à faire ça. Un outil comme Thunderbird est très pratique pour ça. On peut également utiliser un Kanban. Alors j'utilise exprès un mot un peu peut-être étrange pour certains d'entre vous, mais puisqu'on en parlera dans 15 jours dans le prochain cours sur les méthodes agiles, eh bien ça me permet de l'introduire à moindre frais. Voilà pour ces principes généraux. Alors je vous donne également un autre petit truc qui se pratique parfois également dans la pratique du mail. C'est la mention TL.dr qui signifie too long didn't read, c'est-à-dire traduit en français trop long j'ai pas lu, et qui est en fait une façon de alors, qu'à la base d'une sorte de blague, mais qui est une façon de signaler soi-même le fait que l'on produit un texte et un mail long. Et donc, on va informer d'emblée l'utilisateur qu'on sait que c'est un texte long, on sait qu'il va prendre du temps à le lire et à y répondre, et on va, en général, introduire un bref résumé au début pour que la personne sache si elle doit ou pas faire l'effort de lire ce mail. Donc, c'est une pratique assez intéressante que je vous invite à explorer. Alors, je ne l'ai pas reprécisé à chaque fois, mais ce que je trouve personnellement assez intéressant, c'est que tous ces petits conseils que je vous donne, eh bien en fait, on les trouve plus ou moins dans cet état-là, dans la RFC 1855. Hein. Par exemple, le fait de dire, si vous entamez un mail long, eh bien précisez-le dans le sujet, informez les autres utilisateurs. Enfin, puisque j'ai commencé à introduire la question de l'autre utilisateur, quelques suggestions complémentaires également que l'on trouve toujours dans la RFC. Soigner la forme d'une façon générale. Évidemment, l'usage des correcteurs aujourd'hui, des correcteurs orthographiques, nous facilite la vie. On nous invite également à soigner dans cette RFC la ponctuation. Donc des choses qui peuvent paraître parfois anecdotiques, mais qui effectivement ne le sont pas forcément. Alors j'en profite pour donner un petit truc qui est pas tout à fait dans le sujet, mais qui sera peut-être utile à certains d'entre vous, dont moi je me sers très régulièrement. Lorsque je cherche à corriger un texte, eh bien je le lis à l'envers, depuis la dernière phrase vers la première, voire même parfois par fragments de phrase. Et en fait, en le lisant à l'envers, eh bien notre esprit n'accède plus au sens de ce qui est écrit, et du coup peut se concentrer sur la forme. Donc c'est un petit truc que je donne en passant. C'est loin d'être parfait. Si vous lisez mes cours ou mes mails, vous verrez que c'est loin d'être infaillible, mais c'est toujours mieux que sinon. Un autre point qui est assez intéressant, alors là j'en parle au niveau des mails, mais Audrey pourrait ou pourra nous en parler dans le cadre des réseaux sociaux, c'est la question de la gestion des émotions et en particulier de la colère. Alors voici encore une fois, alors du coup le conseil qui est dans la RFC, c'est laisser passer la nuit sur les messages à forte composante émotionnelle. Voilà moi une petite méthode que j'utilise parfois et que je peux vous inviter à essayer d'écrire. Si vous avez envie d'écrire un mail sous le coup d'une émotion forte, écrivez-le, finissez de l'écrire. Petit détail, ne mettez pas le destinataire. Comme ça, ça vous permettra plus facilement de respecter le point 2 qui est « ne l'envoyez pas ». Donc écrivez votre mail et ne l'envoyez pas. Puisque l'émotion est là, à un moment, eh bien, elle peut avoir envie de sortir, donc ne nous en privons pas. Mais donc ne mettez pas le destinataire, ça évitera un envoi non voulu. Et donc ne l'envoyez pas. C'est-à-dire que même si vous avez fini et que vous trouvez que c'est exactement ce que vous aviez envie de dire, eh bien ne l'envoyez pas. Le lendemain matin, vous relisez le mail et à ce moment-là, vous prenez votre décision. Chacun est libre, donc envoyez-le si vous le souhaitez. Mais ça peut être parfois l'occasion de le modifier, de le tempérer un peu. Il m'est souvent arrivé de faire ça et parfois de regretter de ne pas l'avoir fait. Voilà pour peut-être deux points assez importants. La question de la forme, la question de la gestion des émotions. Peut-être je mentionne un peu plus rapidement deux trois autres éléments, mais le fait donc d'économiser le temps des autres, hein, c'est quelque chose qui est à plusieurs reprises mentionné dans la RFC. Notamment une pratique que l'on trouve assez souvent, qui est le fait d'envoyer des mails groupés, c'est-à-dire que voilà, on va envoyer un mail et puis on va se dire ah ben ça peut intéresser X, Y, Z, puis en fait à la fin on va envoyer un mail à 10 ou 15 personnes, sauf que évidemment si l'ensemble des utilisateurs font ça, l'ensemble des personnes communiques font ça, eh bien on se retrouve tous avec beaucoup plus de mails que ceux qui nous intéressent et du coup l'incapacité de lire et de filtrer correctement. Donc en fait on peut considérer que c'est vraiment un acte d'écologie de l'attention de l'autre, hein, en quelque sorte, que de ne pas lui envoyer un mail si vous n'êtes pas sûr que ça va lui l'intéresser. Encore une fois, on peut aussi faire précéder ces mails de mentions qui disent ça peut vous intéresser ou pas, mais pareil, si on en reçoit plein toute la journée qui disent ça, bah, au bout d'un moment, on ne sait plus tout à fait quoi en faire. En continuité, vous pouvez aussi vous rompre le fil de copie, hein. Si vous recevez un mail, vous voyez qu'il y a plein de personnes en copie et que vous souhaitez répondre, eh bien, à la personne, et a priori, encore une fois, vous n'êtes pas certain que ça intéresse tout le monde, eh bien, il vaut mieux ne répondre qu'à cette personne et enlever toutes les autres personnes en copie. Au pire, la personne qui est à l'origine du message, eh bien, saura bien renvoyer à qui de droit. Donc, en général, encore une fois, on y gagnera, hein. En fait, hein, c'est assez normal puisque on a plutôt l'impression, en général, qu'en envoyant l'information à un maximum de gens, eh bien, ils auront plus vite l'information, sauf qu'on oublie que ça suppose la capacité pour chacun de filtrer et on l'oublie pas très longtemps si on se pose la question de sa propre, enfin de la propre surcharge que l'on a tous, je pense, aujourd'hui avec la communication numérique en général. Alors, idem, ça rejoint un petit peu l'aspect sur la colère, mais a fortiori, si vous avez une réponse qui est vraiment un peu plus personnelle, un peu plus spécifique, ou que vous rentrez dans une logique de désaccord, faut vraiment pas hésiter à restreindre en fait le nombre de destinataires d'un mail. À l'inverse, encore une fois, on parlera ou pas de chiffrement. Il nous reste quelques minutes. On verra si on y arrive ou pas. C'est un peu le suspense là de ce cours. Mais en tout cas, essayons de. Enfin, une des règles qui est rappelée également dans la RFC, c'est d'essayer de respecter les intentions des uns et des autres. C'est-à-dire, si vous recevez un mail dont vous voyez qu'il a effectivement une teneur assez personnelle et malgré ce que l'on a dit avant sur les difficultés de conserver les informations personnelles confidentielles, eh bien on va éviter de le transférer ou de le renvoyer à d'autres. Ce qui suppose aussi, hein, une autre pratique difficile, c'est de ne pas conserver dans les historiques de mails, eh bien trop d'informations. Alors on terminera aussi l'année sur des aspects écologiques autour du numérique. Ça peut aussi poser ces questions-là, hein, l'obésité des mails, même si le fait de conserver du texte à l'intérieur d'un mail est probablement anecdotique. On pourra retenir que le fait de conserver du texte à l'intérieur d'un mail lors de multiples échanges, eh bien, c'est aussi conserver du contexte et parfois qui peut être dérangeant. Alors, je termine sur un petit point que je trouve, voilà, assez intéressant. Donc les règles de Crocker's, les Crocker's Rules, qui nous sont donc proposées par, que vous retrouvez également sur le blog de Stéphane Borsmeyer, que j'ai déjà cité. Et en fait, et donc Crocker est un des premiers, peut-être même le premier à avoir publié une RFC si ma mémoire est bonne, nous dit que Eh bien, si vous vous déclarez vous-même comme respectueux des règles de Crocker's, eh bien, ça veut dire que vous autorisez les autres à optimiser leur message et à ne pas chercher à être poli en quelque sorte ou être sympa avec vous plutôt. Polici mais sympa. Et ça conduit effectivement éventuellement à des communications extrêmement lacunaires, extrêmement réduites, dans lesquelles effectivement, on va se contenter de donner vraiment l'essentiel, sans bonjour, sans au revoir, etc. Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que l'on voit que bien sûr, ce que j'ai énoncé ne sont pas des règles absolues, ce sont des principes plutôt par défaut, mais bien entendu, la communauté dans laquelle vous évoluez est tout à fait libre de poser d'autres règles et vous-même de les faire évoluer.
Ok, donc si je résume, comment être à la fois efficace et respectueuse si je dois écrire un long mail, alors si je ne peux pas l'écrire vite, je vais utiliser le defer de la méthode des 4D, j'accuse réception du mail en me donnant le temps nécessaire pour ma réponse longue, je n'oublie pas d'ajouter un TLDR en début de mail, je n'envoie pas ma longue réponse sous le coup de l'émotion à 3h du matin, mais je peux utiliser les Crocker's Rule donc, et puis le lendemain, je me relis à l'endroit et à l'envers, ok. Alors imaginons que ce mail maintenant est une dimension personnelle et que je veuille transmettre une information confidentielle, quelle est la bonne pratique ultime que tu me conseillerais ?
Eh bien, dans ce cas-là, on va le voir, l'utilisation du chiffrement paraît quand même nécessaire aujourd'hui. Hein. On commence à avoir les moyens de faire ça relativement simplement. Alors, tu vois que je prends quand même un certain nombre de précautions. Donc, je dirais aujourd'hui que je dirais en fait d'abord la chose suivante, si vraiment c'est très personnel, si vraiment c'est une information très risquée à envoyer pour une raison ou pour une autre, je t'invite à ne pas l'envoyer sur un support numérique enregistré. Si on est un petit peu en deçà de ça, ou qu'on est un peu plus confiant que je ne le suis, eh bien on va utiliser effectivement des protocoles de communication les plus chiffrés possibles. Alors... Ça nous amène donc à une très brève introduction que l'on va faire de cette troisième partie. Et donc, on va parler un petit peu de chiffrement, puisque tu m'as posé la question tout à fait innocemment, Audrey. Alors, peut-être que je peux faire une toute petite introduction, puisque j'ai mentionné ça tout à l'heure, mais on peut différencier trois grandes catégories, et peut-être que c'est finalement le plus intéressant à transmettre aujourd'hui. Mais on a donc les communications en clair, les communications chiffrées et les communications chiffrées de bout en bout. Et c'est probablement entre les deux derniers que se cache le diable, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas un certain nombre d'incompréhensions et de difficultés. Alors en clair, c'est simple, la plupart des protocoles d'Internet, HTTP, FTP, SMTP, IMAP, etc., sont à la base des protocoles en clair. C'est-à-dire que lorsque vous consultez un site web, eh bien... n'importe qui, pour dire simple, ou n'importe qui en a les compétences, mais en tout cas sans faire d'efforts particuliers, il est possible de regarder quel site vous consultez, quelles informations vous récupérez de ce site. Si vous communiquez avec SMTP ou IMAP par mail, de la même façon, on va tout à fait pouvoir lire le contenu de vos messages sans aucune difficulté, tout simplement parce que les chaînes de caractères qui sont communiquées, eh bien, sont communiquées telles quelles. Donc n'importe qui peut les lire. Alors en fait, depuis quelques années, ces protocoles ont été augmentés d'une couche de chiffrement. Donc aujourd'hui, essentiellement à travers la technologie TLS, qui avait avant une version antérieure qui s'appelait SSL. Je passe un petit peu pour les détails, mais ça nous explique le S en fait qui est à la fin. Et donc dans vos navigateurs typiquement, et bien pour la majorité d'entre vous, vous avez dû voir que beaucoup d'adresses ne sont plus http://, mais maintenant https://. Alors, quand on a un petit S à la fin de HTTP, de FTP, de SMTP, de IMAP, ça veut dire qu'on utilise le même protocole qu'au départ, mais avec une couche de chiffrement. Cela signifie que le client, cela signifie que l'information va être associée à un code qui va faire en sorte que toute personne qui est intermédiaire sur la ligne, qui regarde en fait les informations qui passent, bien sûr, elle peut tout à fait continuer à les voir, mais elle voit passer une suite de caractères ou de chiffres, enfin peu importe, qu'elle ne peut absolument pas interpréter. Je vais pas rentrer trop dans les détails de ça, mais on connaît tous plus ou moins intuitivement le chiffre de César, qui consiste à décaler les lettres d'un certain nombre de cases. Alors si je le décale d'un, je transforme les A en B, je transforme les B en C, etc. Donc ça, c'est une façon de chiffrer. Évidemment, les protocoles qu'on utilise sur Internet sont beaucoup, beaucoup plus élaborés.
Alors Stéphane, je me permets de t'interrompre, excuse-moi, j'ai une question de Grégoire qui te demande quel est l'intérêt pour Google d'avoir créé un navigateur parallèle, le navigateur privé, sachant que ce n'est pas privé du tout.
Alors effectivement, c'est assez intéressant. On retrouve ça aussi avec le principe de navigation privée. L'idée est que la question de la vie privée sur Internet se pose à plein de niveaux. Et je conclurai probablement là-dessus. Elle se passe effectivement au niveau des communications entre le client et le serveur. Et là, on voit que les communications, si elles ne sont pas chiffrées, eh bien, n'importe qui peut venir regarder entre les deux et voir ce qu'il se passe. Donc, c'est ce qui se passe si vous utilisez du HTTP et non pas du HTTPS. Dès lors que vous utilisez HTTPS, alors, presque plus personne ne sait avec qui vous communiquez. En vrai, il reste une personne, il reste votre ordinateur à vous, qui le sait, et il reste le serveur. Donc, si vous consulter le moteur de recherche de Google, et bien évidemment, Google, du coup, à ce moment-là, connaît l'état de vos requêtes. Si quelqu'un accède à votre ordinateur, évidemment, il connaît également l'état de vos requêtes. La navigation privée est une petite façon d'économiser, de cacher, on va dire, de protéger une partie des informations côté client. Puisque, bien, par exemple, on ne va pas maintenir l'historique de sa navigation. On va enlever également une mémorisation des mots de passe ou un certain nombre d'informations comme celle-ci. Donc, ça participe de la vie privée, mais évidemment, si vous utilisez un mode de navigation privée avec du HTTP, eh bien, comme on l'a vu, néanmoins, vos communications seront claires. Et puis, dans tous les cas également, même avec HTTPS et même avec une navigation privée, eh bien, le serveur avec qui vous communiquez, lui, il garde l'accès à l'ensemble de l'information que vous lui communiquez. C'est-à-dire que, lui garde la possibilité de mémoriser et d'enregistrer ces informations. Alors, si on veut éviter ça, c'est possible. Il existe également des protocoles. J'ai mentionné, par exemple, le protocole Matrix, qui permet de faire du chiffrement de bout en bout. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler de l'application Signal, qui permet de faire cela. Le chiffrement de bout en bout, ça signifie que votre ordinateur possède une clé et qu'il ne va communiquer qu'à son destinataire. Donc ça veut dire que seul vous et votre destinataire pouvez déchiffrer le message. Même les serveurs qui vous rendent le service de transmission, par exemple les serveurs, le serveur de Matrix qui va transmettre l'information, eh bien en fait, lui-même ne voit pas l'information et ne peut pas accéder à l'information qu'il transmet. C'est ce que l'on appelle le chiffrement de bout en bout. Et en fait, c'est la seule garantie que l'on ait pour que personne d'autre que les gens qui communiquent entre eux, eh bien, soient en mesure d'accéder au message. Alors quand je dis c'est la seule garantie, malheureusement même ça c'est pas suffisant, puisque si je communique avec Audrey avec un protocole chiffré de bout en bout, on fait ça en fait Audrey, puisque nous on le fait par le mail, hein, on peut à travers des mails s'envoyer des mails chiffrés de bout en bout en combinant les mails avec la technologie OpenPGP, donc on peut s'envoyer des mails chiffrés, c'est ce que l'on fait, mais néanmoins, ni toi ni moi ne sommes à l'abri d'une erreur, un forward à un moment du mail déchiffré, un copier-coller malheureux, etc. Donc on voit que même dans ce cas, qui est en quelque sorte le minimum, eh bien ça reste extrêmement difficile ça demande un effort de maintenir les choses de façon confidentielle. Et si vous voulez découvrir un petit peu ça, vous pouvez voir par exemple les films documentaires autour d'Edward Snowden ou de WikiLeaks, et vous trouverez effectivement, vous prendrez un petit peu conscience de cette difficulté. Et peut-être pour vraiment conclure, j'ajoute également que la communication chiffrée implique le chiffrement du contenu, mais également pas des métadonnées. C'est-à-dire que même si vous parlez avec du chiffrement de bout en bout, eh bien, on peut encore savoir qui communique avec qui. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez aller creuser un petit peu ça, eh bien, sachez que le navigateur Tor permet de brouiller les pistes pour masquer cette couche de métadonnées, donc savoir qui communique avec qui. Peut-être, j'ai déjà dit que je concluais, mais peut-être juste annoncer ce que la suite des événements, eh bien, si d'aventure je la retrouve, pardon, voilà mes dernières notes. Donc pour conclure, et avant de passer la main à Léo pour le générique de fin, non, il n'y a pas de générique de fin, ok, donc c'est moi qui fais le générique de fin, on a été parfaitement calé jusque-là. Notez que l'on peut réécouter cette émission sur graphite.net, qu'on la déposera également sur PeerTube, donc à travers les instances tube.picasoft.net ou aperi.tube, et où on peut retrouver également sur librecours.net les notes et l'ensemble des liens dont je viens de vous parler. La semaine prochaine, on se repose parce que ce sera une semaine de vacances. Dans 15 jours, on découvrira donc une introduction aux méthodes agiles. Et si vous voulez interagir sur le sujet de cette semaine ou celui de la semaine prochaine ou n'importe quoi d'autre, rendez-vous sur team.picasoft.net, équipe W1.
Upload, l'université populaire du libre sur Graphite.